Il se passe pas ces choses-là. Je veux dire, les gens ont l'habitude de la ville, ont l'habitude de parler à d'autres gens. Je veux dire, c'est vrai que là, ben, les gens, ils vivent à 7, 8 dans un appartement, et puis tout d'un coup, ben, s'il leur passe une idée un peu... Et en plus, c'est des gens complètement analphabètes, ce qui fait que, bon, ben voilà, ça, c'est des situations types, mais je crois qu'on peut les retrouver un petit peu partout.
Oui, ça d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, si on pense qu'effectivement, quelles sont les répercussions d'un livre comme celui-là en Suisse. Eh bien, Amélie, je te remercie mille fois et je te souhaite bon voyage à Rome, puisque je sais que tu pars à Rome.
Merci.
Alors, merci et à bientôt. Ciao, Amélie.
Au revoir.
Oui, alors, quand tu as raconté un peu l'histoire, effectivement, Annette, elle veut porter des pantalons, mais surtout, elle ne veut pas être une fille. Parce que c'est ce que dit aussi
Mélie,
être une fille en Sicile, c'est très, très dur. Parce que la Sicile, c'est une société totalement patriarcale, totalement organisée. La famille au sens très large, puisque c'est même pas la famille, c'est vraiment la famille au sens presque mafieux. Hein. Il faut savoir que la mafia est aussi organisée comme ça, c'est les familles. Hein. Et le lien de la famille, à l'intérieur de la famille, on ne dit rien, on ne trahit pas. Tout se passe dans la famille et avec le chef de la famille, le parrain, qui est le père ou l'oncle ou le frère. C'est toujours un personnage masculin, le umasculo, hein. C'est le roi de la famille. Alors effectivement, être une fille là-dedans, c'est dur. C'est très dur et Annette, elle n'a pas envie d'être ça. Alors comment est-ce qu'une fille peut s'échapper? C'est vrai, les possibilités qui existaient il y a 20 ans, parce qu'on peut... Le roman n'est pas daté, mais on a l'impression, d'après les quelques indices qui s'y parsèment, que ça s'est passé environ dans les années 60. Hein. Maintenant, elle raconte, en fait, à la fin, elle est adulte et elle dit... ça s'est passé il y a quelque temps, elle a raconté son histoire et à l'époque pour une fille s'en sortir c'était effectivement la voie de la religion. C'est pas du tout une folie parce que souvent entrer au couvent c'était parfois un enfermement mais c'était parfois aussi sortir d'un autre enfermement et peut-être que le couvent était à la limite plus léger. Ou faire la mauvaise vie, la malavita, la putain, parce que là aussi on sort de cette famille, on se met au banc. Alors elle finalement, de toute façon, c'est une trajectoire totalement adolescente parce qu'elle ne fait rien, elle ne fait que flirter. Et immédiatement, il y a cette catastrophe qui lui tombe dessus. Sa mère, effectivement, dans une violence extrême qui la rejette. Et c'est vraiment un rejet. Mélie en a parlé. Je veux te voir morte, je veux te tuer, que tu sois morte. Mieux vaut être morte que de mettre... l'opprobre sur la famille et elle sait très bien que cet oncle est un affreux cochon qui va lui tomber dessus parce que
elle l'a peut-être subi aussi,
elle n'apprend rien finalement, elle ne veut pas le savoir parce qu'on ne dit pas ça. Alors peut-être ce qu'il faut rappeler c'est effectivement le scandale qu'a causé ce livre qui fait qu'on, parce que sinon ce roman serait passé inaperçu, parce qu'au niveau de l'écriture, c'est un joli roman, mais c'est pas non plus le roman du siècle. C'est le premier roman d'une très jeune fille, ça se sent, c'est très bien écrit. On peut imaginer que Lara Cardelli va faire une carrière peut-être très brillante, mais disons, c'est un petit roman quand même, il faut pas non plus en faire un pamphlet ou une œuvre majeure, mais il a causé un tel scandale parce qu'elle a osé lever le voile. Elle a osé casser le silence et ça, c'était inacceptable. Elle a été rejetée de sa communauté. Finalement, cette liberté qu'elle voulait en portant les pantalons, elle en a senti le poids aussi par un rejet total de sa communauté. Et moi, j'ai vu une émission à la télévision, on la voit marcher dans cette petite ville avec les vieux qui lui jette des regards noirs, les femmes qui ne lui parlent pas, elle est complètement isolée, et je crois que même que finalement elle a dû partir de cette petite ville, elle
oui,
ne
je crois
peut
même
plus
que
vivre là,
parce que... On persécutait sa tante aussi, qu'on croyait être la vraie tante du...
Parce que la loi non écrite en Sicile, c'est la loi de la famille et la loi de l'omerta, c'est le silence, on ne doit pas parler, c'est comme ça que c'est ce qui fait la force de la mafia, parce que la Sicile c'est aussi la mafia, il faut aussi... Mettre les deux choses bout à bout.
Isabelle et Evelyne. Ah oui, Evelyne, excuse.
Non, je pense à la mafia parce que quand notre...
Mélie
a parlé tout à l'heure et qu'elle parlait de la Sicile comme une île silencieuse, je me demandais à ce moment-là si ce n'est pas la mafia qui l'a rendue aussi très silencieuse, cette île.
Mais c'est peut-être pas un hasard que la mafia soit issue de la Sicile. Je crois que c'est vice-versa.
Enfin, la structure même familiale de la Sicile, je veux dire, la mafia a...
S'est appuyée sur cette structure.
Non, ouais. Elle a la même structure, c'est la même chose. Ouais.
Mais vous, Isabelle et Evelyne, comment vous avez ressenti ce livre? Je ne sais pas... Isabelle, avoir l'âge de,
ouais,
de
Lara. J'ai eu un peu de difficulté à entrer dans le livre... Premièrement, effectivement, peut-être à cause de l'écriture. Bon, c'est très sec, comme ça, c'est un peu comme une dissertation très longue. Mais j'ai un peu de difficulté. Jusqu'au moment où ça fait un déclic. Elle parle quand même, finalement, d'un domaine. Et elle parle surtout d'une période qui est l'adolescence, dont on est tous remplis, on sait tous ce que ça comporte comme... difficulté, c'est le combat face aux parents, la volonté de se libérer de certaines images qu'on s'est fait d'eux. Mais moi, par contre, j'ai effectivement beaucoup aimé cette manière de décrire les choses, finalement, sans porter vraiment de jugement sur tout ça, mais simplement de le dire une fois, et le dire avec des mots qui... C'est vrai, en français, c'est pas toujours aussi vraiment violent que ça peut l'être en italien.
Mais est-ce que tu as senti une distance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle vit, et puis ce que tu vis, toi? Est-ce que, quelque part, tu t'es sentie interpellée?
Bien sûr qu'entre ce qu'elle raconte, elle, le rapport qu'elle a avec ses parents, ou le rapport quand elle veut des pantalons. Moi, j'ai pu porter des pantalons depuis tout petite, effectivement, j'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais non plus... Non, je crois que je ne me suis pas vraiment identifiée, mais c'est sûr que c'est une expérience. Bon, moi, je suis née ici, et on a un rapport ici quand même différent avec la famille, bien que on a tous effectivement des familles, mais là, c'est vrai que ça prend un tel pouvoir, ça a une telle ampleur sur elle que... Non, mais c'est vrai que c'est quand même très différent de ce qu'on vit.
Est-ce que toutes les trois, vous avez été choquées parce que vous avez lu quand même, la réaction des parents est incroyable. C'est vrai que cette mère qui rejette tellement fort, même si, comme le disait Mélie, il y a peut-être des mots qui sont des mots et qui ne sont pas forcément aussi violents dans leur réalité que ce qu'ils disent. Hein. Mais il n'empêche que la mère n'a pas soutenu sa fille dans cette histoire. Elle a justement, elle lui a imposé la suite des traditions, le maintien de l'éducation. On sait aussi que la tante chez qui finalement va arriver Aneta, elle aussi vit pas une vie rigolo. On sait que sa petite fille est violentée par son père. Enfin bref, on en apprend des vertes et des pas mûres quand même sur la façon dont les femmes et les petites filles et les jeunes filles vivent dans la société sicilienne. Est-ce que vous avez été choquée ou quelque part ça vous a pas surpris? Ça semblait être une chose qu'on...
Mais ça fait partie un peu des stéréotypes de ce qu'on sait, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit de la Sicile. Parce que si on regarde le cinéma sicilien, en tout cas ce qu'on nous a donné à voir, c'est exactement ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous vous souvenez de ce film. Je ne me souviens plus le réalisateur, je crois que c'est Risi, non? C'est Sedotta e Abbandonata, voilà, non? Séduite et abandonnée, qui était un film, je ne sais plus, des années 50, fin des années 60. c'était exactement ce même scénario, grosso modo. C'est-à-dire, effectivement, cette guerre ouverte entre hommes et femmes, où l'homme va toujours essayer de prendre la femme, et puis une fois qu'il l'a laissée, c'est toujours ça. Donc, ce qu'on nous donne à voir de la Sicile, ça ressemble beaucoup à ça. Alors, moi, je ne connais pas... c'est vrai que quand on va en Sicile, même quand on connaît un peu des gens, même si c'est pas totalement touriste, on a de la peine à pénétrer cette société qui est très très opaque à mon avis. Et donc, est-ce que c'est encore comme ça? Mélie peut-être la connaissait mieux, elle a l'air de dire que c'est toujours comme ça. Moi, j'ai du mal à me dire, est-ce que c'est simplement un stéréotype sicilien ou est-ce que c'est vraiment comme ça que se passent encore les jeunesses des filles?
Mais elle dit quand même à la fin, en tout cas, que bien des années ont passé depuis le moment où elle écrit ça. Et que finalement, aujourd'hui, les filles peuvent sortir. Elle le dit tout à la fin du bouquin, qu'elles peuvent quand même un peu sortir et que c'est quand même moins dramatique, ou disons, c'est moins...
Oui, elle parle même de révolution. Ouais. Elle ne va pas tout à fait dans le sens de Mélie, parce qu'elle dit... J'ai assisté à de véritables révolutions dans mon gros bout. Les filles sortent tranquillement de chez elles. Leurs parents ne sont plus trop sévères et presque toutes fréquentent l'école. Certaines, même l'université. Mais je n'ai jamais pu porter de pantalon. Quant à elles. Hein, mais moi, j'ai... Il y a quand même... moi, j'ai eu de la peine à accrocher dans ce livre. Pas à cause du sujet, parce que le sujet en soi, il est très important. Il y a un enjeu là très grave sur cette éducation des filles et puis cette absence de liberté sur leur corps, etc., de mouvement qu'ont les femmes là-bas. Mais malgré tout, moi, j'ai eu, peut-être parce que effectivement la traduction tue une grande partie de l'originalité de l'écriture au départ du livre. Mais ce que j'avais de la peine à finalement accepter, c'était que les rapports d'un État avec les autres étaient pratiquement tous négatif finalement. J'entends dans le sens que elle dit carrément qu'elle n'a jamais aimé son père, que son père ne l'aime pas, que elle dit assez souvent qu'elle déteste sa mère, même si c'est pas sa faute à sa mère qu'elle soit comme ça, mais elle la déteste encore plus parce qu'elle est comme ça. Parlons pas de son frère. Son frère l'a toujours laissé parfaitement indifférente et heureusement qu'il est parti en Suisse. Bon, ses oncles, il y a une peinture assez... N'en parlons pas, là, de l'oncle violeur. La seule personne un peu positive avec laquelle elle a de bons rapports, c'est sa grand-mère.
La tante aussi.
Et la tante. Mais la grand-mère, justement, le problème, c'est que la grand-mère a beaucoup méprisé sa plus jeune fille, qui est la fameuse tante, Vanina. Hein? Donc, la grand-mère l'a peut-être privilégiée à elle, comme petite fille. Mais elle a été très injuste par rapport à ses propres enfants. Et on a là une peinture de la manière dont elle traitait ses différents enfants et comment elle privilégiait complètement la position de l'aînée.
On ne sait pas comment elle aurait traité Annette grande, hein, puisque la grand-mère va disparaître. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer.
Absolument. Et alors, moi, ça, disons, ces rapports très durs avec un monde vraiment... C'est vrai, très, très hostile autour de cette petite... Ça manque de... Je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque part, il doit y avoir une relation plus affectueuse. Et par exemple, la fille qui est censée l'initier en tant que putain, la fille de l'ingénieur qui a vécu ailleurs, je ne sais pas, dans le nord de l'Italie et qui est beaucoup plus libre, avec elle non plus, elle dit aussi, je ne l'aime pas et je ne lui demande pas qu'elle m'aime, mais il faut juste qu'elle m'apprenne, en fond, à me comporter, hein, comme il faut. Avec son premier flirt non plus, elle a l'air parfaitement indifférente, elle veut juste faire une expérience. J'entends, c'est terrible, hein, ça manque de chaleur humaine.
C'est vraiment un premier roman, à mesure où on se rend compte, et elle le fait très bien, elle gère une quantité de personnages, elle les gère bien, mais elle les gère sur un mode. Elle n'arrive pas encore à gérer la complexité des sentiments, de gérer à la fois des personnages positifs et négatifs. C'est effectivement beaucoup lui demander, je veux dire, là, c'est son premier roman.
C'est clair.
Effectivement, et moi je trouve que tous les personnages sont très bien dépeints, certains sont à peine esquissés, mais ils sont quand même... ils ressortent, même ce frère, le masque ou le nom, qui est parti en Suisse, elle en fait, il y a juste un paragraphe ou deux, mais ce personnage, il est quand même bien campé. Moi, je trouve qu'elle campe très bien ses personnages. C'est vrai qu'elle n'est pas entrée dans toute la complexité des émotions, des sentiments. Bon, C'est vrai, ce que tu disais, c'est une longue dissertation. C'est... Moi, je n'ai pas trouvé pesant comme style. C'est vrai qu'on sent la traduction, mais je trouve que la traduction est assez bonne. Il y a un rythme qui évoque assez le rythme de la langue italienne. Et ça m'a pas... Disons, je n'ai pas été choquée. Pourtant, je connais l'italien bien. Mais... Et peut-être pour en revenir à la Sicile, j'ai un souvenir des vacances siciliennes où j'étais dans un bled du centre de la Sicile, invitée chez des amis masculins, militants, progressistes, etc. J'étais là-bas avec mon compagnon et ma petite fille qui est tombée malade, qui avait la varicelle. Alors pour la soigner, cet homme m'a dit « Écoute, alors on va chez la mamma. » Il y a toujours la mamma qui lui prépare tous les jours à manger. Et alors, j'étais chez la maman pour soigner ma petite fille. Et j'ai été pendant une semaine dans un monde que féminin. Et c'était incroyable. Au bout d'une semaine, j'ai cru que j'allais devenir folle. Je ne pouvais sortir que devant la rue. J'étais là, assise toute la journée. Rien à faire, si ce n'est d'écosser de temps en temps des petits pois et des fèves pour aider. Mais... toutes ces femmes sont là, devant les portes. Et elles ne sortent pas plus loin que la rue, elles ne vont et le monde et les contacts qu'elles ont avec le monde, c'est les hommes qui viennent. Et moi, effectivement, mon compagnon revenait, me racontait ce qui se passait dehors. Et au bout d'une semaine, j'en ai eu marre, j'ai planté ma fille là, et je suis partie. Et je pense donc que cette réalité de l'enfermement des femmes et des petites filles est encore très forte, parce que alors c'est un enfermement discret, parce que c'est pas que la maison, elles sortent dans la rue. Il y a la rue devant chez elle où effectivement là, on a le droit de sortir. Toutes les petites filles jouent en petites jupes d'ailleurs, très sagement, sous les yeux, toujours sous les yeux. Et ça, c'est important, il y a toujours ce regard, parce que les rues de la Sicile sont ponctuées de fenêtres où il y a des femmes qui regardent, de portes devant lesquelles se tiennent des femmes qui vous regardent passer et qui savent toujours où vous êtes. Hein. Et on ne peut pas se perdre en Sicile.
Par rapport à ce qui était dit là tout à l'heure, Evelyne, par rapport aux sentiments, il y a à un moment donné, je trouve un tout. Je crois que c'est deux phrases, elle le dit en deux phrases. Moi, j'ai jamais été en Sicile, donc je connais pas la géographie du pays. Mais elle parle de la chaleur et de la campagne qui est sèche et triste à mourir. Et moi en tout cas, ça m'indiquait comme ça une certaine ambiance aussi à un niveau qui évidemment donne une certaine idée peut-être des émotions, à savoir que tout est très triste, il fait très chaud, c'est très lourd. Je sais pas, d'un coup je me disais peut-être par ce fait-là, elle parle pas de ça, ou ça se parle, on n'en parle pas justement. Et moi ça me dérangeait pas beaucoup finalement, qu'on n'ait pas un rap. On sent par tout ce qu'elle raconte que c'est quelque chose là, effectivement, dont on parle pas, ou en tout cas.
Mais d'après ce que disait Mélie,
c'est très très froide cette vie finalement. Et puis elle se termine.
Dure, je crois.
Mal, hein, puisqu'elle est mariée avec son premier flirt. Elle n'aura jamais porté des pantalons. J'entends, elle a rien réussi. Enfin, c'est cette révolte qui est saine, hein, ce cri de révolte là d'Aneta. Et puis c'est, elle essaye vraiment de se rebeller. Bon, c'est un échec, hein, finalement, pour elle.
Peut-être, mais je trouve qu'il y a quand même des tentatives importantes d'énergie, dans le sens que elle va chez les nonnes d'abord, ensuite elle va derrière son cousin, ensuite elle va derrière sa copine pour s'initier au rôle de prostituée, et puis après il y a encore sa tante qui elle aussi a essayé des trucs, hein, elle a essayé de s'enfuir avec un autre, de vivre une autre histoire, enfin je sais pas, on a quand même l'impression qu'elle tente. Bon, ça marche pas forcément toujours, elle le paye souvent cher, mais elle reste pas comme ça non plus, écrasée à subir tout le temps les histoires, non?
Non, mais justement, sa révolte dure le temps de son adolescence, au fond, qui est le moment privilégié de ses grandes énergies, et qui est un moment privilégié, je dirais, aussi de romantisme. Ça m'avait beaucoup frappé dans le journal de la tante, le fossé qu'il y a entre l'année où elle découvre l'amour et les sentiments amoureux. Et puis, 4 ans plus tard, quand elle est mariée avec un enfant et que son mari la traite déjà de crétine, qui devrait plutôt aller... est-ce que je peux lire
Je crois que ce serait une très bonne
peut-être
idée.
Peut-être ouais. Les deux passages qui, et pour qu'on se rende compte du fossé qu'il y a entre les deux choses. Donc, passer d'un romantisme extraordinaire de fin d'adolescence à une réalité qui est vraiment cruelle. Thank you.
Alors, le 26 novembre 1962, donc Vanina écrit, la tante d'Annette a écrit dans son journal, elle écrit un poème à son amoureux, et voilà ce qu'elle lui écrit. « Je me souviens de tes beaux yeux, je voudrais embrasser ta bouche, fuir avec toi loin, loin. Apprends-moi à voler et volons ensemble. Peut-être que c'est un péché, mais je le voudrais avec tout mon cœur d'amoureuse. » Elle écrit ça en 1962. Peu de temps après, on découvre le flirt, alors on la marie rapidement. Et alors, le 22 mai 1967, elle doit avoir, peut-être pas plus de 25 ans en tout cas. Et elle écrit ceci. « Aujourd'hui, Rosanna a eu un an. Je veux lui acheter un cadeau, mais je ne sais pas comment faire. Je l'ai dit à Vincenzino et il m'a répondu que je suis une crétine parce que nous n'avons pas d'argent, ni même pour manger. » Mais lui, l'argent pour le vin, il le veut quand même quand il sait que Rosanna n'a plus rien à se mettre. Il ne la prend jamais dans ses bras et il ne lui donne jamais de baisers. D'ailleurs, il ne me donne plus de baisers à moi non plus. Sauf certains soirs, quand il veut faire quelque chose et qu'il commence à me couvrir de baisers qui me font venir la nausée parce que ça pue le vin. Voilà alors.
Je vous rappelle que si vous avez envie de participer à notre discussion, si vous avez lu ce livre ou si ce que nous disons, ce qu'a dit Mélie, vous inspire des questions, si vous avez envie de participer, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez nous atteindre en direct au 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 si vous appelez depuis le reste de la Suisse romande. Et nous vous rappelons notre longueur d'onde, Romu Ménage, onde femme, 93.8 sur Radio Zone.
Mais je ne sais pas, moi, comme tu en parles, et c'est vrai finalement qu'il y a un espèce de côté d'un roman naturaliste, comme ça, dur, de la pauvre qui passe d'échec en échec, d'horreur en erreur, de ces romans à la Zola, comme ça, terrible, lourd, où finalement elle ne s'en sort pas, elle va elle-même... suivre un itinéraire qui ressemble à celui de sa tante, c'est-à-dire épouser quelqu'un qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'a pas aimé, qu'elle n'a pas voulu. Mais en même temps, moi, je ne sais pas, en lisant, c'est pas ça. C'est vrai que si tu me dis l'histoire, si tu me lis certains passages, je me dis, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est terrible finalement. Est-ce que c'est encore ces romans, terribles, sur la vie des femmes qui passent, où il n'y a aucun espoir, aucune lueur. Mais en même temps, elle a un humour, elle a une manière... pointu de dire les choses qui font que ça, qu'il n'y a pas ce poids.
Mais justement,
des événements. Alors, les événements sont terribles, mais en même temps, elle le décrit avec pas vraiment d'humour parce que c'est pas drôle, mais je sais pas, avec un accent un peu pointu qui lui donne une légèreté.
Moi, je te dirais, j'ai habité longtemps en Amérique du Sud et c'est là que j'ai remarqué que. Effectivement, on est souvent très malheureux pour beaucoup de raisons, mais on en parle avec un humour incroyable. C'est comme si l'un allait avec l'autre.
Mais je crois que Mélie a bien dit qu'effectivement, elle savait, qu'elle ressentait que le tempérament sicilien, c'est une autre histoire que les gens du Sud. Hein. C'est des gens du Sud très arabisés qui sont plus durs que les autres. Hein. Je pense que c'est ce qui te fait sentir la différence peut-être avec l'Amérique du Sud. Hein.
Oui, peut-être.
Qui s'harmonise plutôt avec la dureté du paysage, comme disait Isabelle, et moins avec l'exubérance peut-être des autres Italiens ou des Américains du Sud. Isabelle, je crois qu'il y avait un passage qui t'avait particulièrement plu et que tu avais envie de nous faire partager.
Pour revenir un peu à ce que Mélie a parlé, à savoir de la définition, par exemple, de la putain. Alors, je vais livrer effectivement un petit extrait. Pour pouvoir comprendre le parcours que doit accomplir une fille avant de devenir putain, il faut expliquer la signification du mot putain. Par chez moi, la putain n'est pas une femme quelconque qui cède son corps au désir de certains riches et exigeants messieurs. Et putain, toute femme qui, dans sa façon de se vêtir et dans ses attitudes, apparaît, pour ainsi dire, dévergondée. Ce qui n'implique pas nécessairement qu'une telle femme passe d'un lit à l'autre, chose qui, à dire vrai, n'arrive pratiquement jamais. Le mot putain est simplement une étiquette, un laissez-passer pour les commérages, une sorte d'œuvre sociale. Pour pouvoir comprendre cette dernière affirmation, il faut bien connaître la mentalité paysanne. Chez moi, presque personne n'est vraiment méchant. Et le goût des ragots n'est pas, comme beaucoup le pensent, la méprisable caractéristique des gens malveillants. Mon village n'a jamais offert grand-chose, aucune activité, aucun divertissement, et l'inertie physique favorise l'imagination. En réalité, la médisance est une activité de suprême fantaisie, un art fait de coloriage. Un art de coloriage, de détails infimes, presque de la marqueterie. Il ne s'agit pas de raconter simplement les affaires des autres, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'une façon particulière de développer ses propres capacités mentales, une compétition d'imagination. Peut-être n'est-ce pas vraiment de bon goût, mais chacun se contente de ce qui lui est offert. L'œuvre sociale des putains consiste justement en cela, fournir de nouveaux sujets.
Fuoco, danza intorno alla mia torcia!